Bonjour Boris.
Bonjour Victor.
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu polémique. On va parler du magnésium. Alors, tu sais, le magnésium, ça fait à peu près 40 ans qu'on en parle. Et on en parle dans pas mal de pans de la santé. On en parle au niveau des médecins, on en parle au niveau aussi des naturopathes, on en parle au niveau de différentes sciences et pseudo-sciences. Et puis, on ne sait pas trop au final, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a beaucoup d'opinions différentes.
Beaucoup d'automédication aussi, hein.
Mais bon, voilà, en tout cas, on constate que c'est quand même souvent un moyen de vendre des suppléments et qu'il y a beaucoup de produits à base de magnésium qui sont vendus. Donc c'est un gros business. Tout d'abord, je voudrais te demander à quoi sert le magnésium?
Alors ça tombe bien parce qu'on ne sait pas vraiment. Alors il y en a des pistes, mais on ne sait pas exactement, on va dire d'un point de vue biochimique. Alors là, si on va au microscope, hein, on va profondément dans la cellule. Globalement, le magnésium est impliqué dans plusieurs centaines de réactions chimiques de notre corps, donc on appelle biochimiques. Alors il intervient ce qu'on appelle parfois comme cofacteur, ou en gros, il va aider des enzymes dont l'objectif est de permettre une réaction chimique qui aurait du mal à se faire. Et voilà, donc ça c'est un de ses rôles. Alors, il en a certainement beaucoup d'autres, mais ça c'est un des rôles évidents. Après, il agit de façon synergique ou antagoniste avec certains autres minéraux, hein, le calcium, le phosphore, etc. Donc voilà pour ça. Après, on peut prendre un petit peu de recul et voir au niveau de l'interaction entre les organes ou des fonctionnements d'organes, on va dire au niveau physiologique, biologique. Et là, on voit que le magnésium est impliqué dans le fonctionnement et le dysfonctionnement éventuellement d'à peu près tous les organes. Alors ça, c'est intéressant. Il y a un peu un parallèle avec la vitamine D dont on a parlé il n'y a pas longtemps, hein, et je vous renvoie sur le podcast si ça vous intéresse. En effet, le magnésium joue dans l'activité électrique du cœur, la conduction de cette activité électrique, qui permet donc du coup une bonne synchronisation et un bon fonctionnement cardiaque. Et on sait que des taux de magnésium extrêmement bas ou extrêmement élevés sont potentiellement cardiotoxiques. Voilà, ils jouent aussi sur le système nerveux. Alors ça fait longtemps qu'on dit lutte contre le stress, la fatigue, il faut prendre du magnésium, petite cure de magnésium. Donc à la fois ça aide à dormir. Bon, il y a un peu de vrai là derrière. Le magnésium a de ce fait un rôle, alors peut-être pas neuroprotecteur, mais une carence en magnésium a peut-être un effet facilitateur dans les maladies neurodégénératives, hein, donc un effet aggravant. Et puis, il joue aussi sur le tonus, donc on a parlé du cœur au niveau de la conduction, mais il joue aussi sur le tonus artériel ou des artérioles, et donc indirectement sur la pression artérielle. On sait qu'il y a un rôle important au niveau rénal aussi. Bref, voilà, en gros, le magnésium, il est utile pour le fonctionnement probablement d'à peu près tous nos organes.
Mais c'est vrai que ça a du sens parce que le magnésium, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les océans, dans la mer. Et on sait que la plupart de nos protéines et des molécules ancestrales de la vie se sont construites dans cet environnement et donc ont utilisé pour se fabriquer tous ces minéraux qu'on retrouve dans la mer.
Tout à fait.
Alors, n'y a-t-il pas un peu des paradoxes avec ce minéral? Parce que il est très présent dans les végétaux, et les végétaux, on en mange quand même pas mal aujourd'hui. Donc, n'est-il pas un peu paradoxal qu'on se dise carencé alors qu'on a beaucoup d'apports?
C'est clair que c'est un peu le minéral des paradoxes. Hein. C'est déjà au niveau des dosages sanguins, c'est-à-dire que en routine, le magnésium, c'est quelque chose que je dose chez mes patients. On est assez nombreux à le faire parce qu'on sait qu'en neurologie, des carences en magnésium peuvent avoir des impacts. Donc, c'est des choses qu'il faut potentiellement chercher. Mais finalement, alors que pour la vitamine D dont on a parlé donc dans un de nos podcasts, la B9, la B12, etc., d'autres vitamines, d'ailleurs, si des sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous solliciter. Hein, eh ben, le magnésium, lui, contrairement à ces vitamines-là, on a rarement des taux vraiment carencés. C'est-à-dire que, il est toujours dans les normes. En ce qui me concerne, j'ai rarement vu des hypos ou des hypermagnésémies en dehors de patients hospitalisés, en réanimation, soins intensifs. Ça, c'est autre chose. Mais on va dire des gens qui se présentent par exemple en consultation, quelle que soit la sévérité de leurs symptômes neurologiques, j'ai jamais vu, pour l'instant en tout cas, de carences, de vraies carences en magnésium. Alors, Premier paradoxe, donc, comme il est admis, alors est-ce que c'est vraiment exact? C'est pas sûr, mais il est vraiment admis qu'on est globalement carencé en magnésium. Or, les taux sanguins, les taux plasmatiques sont normaux. Donc, finalement, ça, c'est un premier paradoxe. C'est-à-dire que la prise de sang ne reflète pas, pour simplifier, probablement la totalité du sujet. Probablement qu'une prise de sang normale, avec des taux de magnésium normal, n'élimine pas une certaine forme d'insuffisance, en tout cas, même si on parle peut-être pas de carence, mais en magnésium. Donc ça c'est déjà un point intéressant. Deuxième paradoxe, effectivement, les plantes, notamment les plantes vertes, contiennent des caisses de magnésium, alors aussi dans leurs enveloppes, qui d'ailleurs sont bourrées de lectine, ça c'est un autre problème, contiennent vraiment énormément de magnésium. Et c'est vrai que les produits végétaux en général donc, sont beaucoup plus riches en magnésium que la plupart, la quasi-totalité des produits animaux. Et comme on est effectivement de plus en plus flexitarien, hein, puisque les recommandations officielles, hein, vous allez sur le site mangerbouger.fr, le site officiel des recommandations de nos autorités de santé, eh ben, c'est clairement flexitarien. Et d'ailleurs, on vous en a parlé dans des podcasts précédents. Et donc, on devrait avoir des taux de magnésium de plus en plus élevés dans le sang. Et voire même des surdosages en magnésium d'origine alimentaire. Je ne parle pas des compléments alimentaires, hein, je parle vraiment que de l'alimentation classique. Et en fait, bah, ce n'est pas du tout le cas.
D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi il y a beaucoup de magnésium dans les plantes?
Alors, les plantes, effectivement, peuvent contenir dans différents organes du magnésium, là où elles en contiennent le plus, très clairement, c'est au niveau de la chlorophylle. Alors la chlorophylle, c'est pas tout à fait exact. La chlorophylle, c'est ce qui donne la couleur verte, alors parfois bleue, des feuilles. Alors les feuilles, ça peut être des épines hein, aussi dans le cas des conifères. Et donc ces organes-là contiennent beaucoup de chlorophylle. En fait, plus exactement, c'est un organite, c'est-à-dire un organe au sein de la cellule qui s'appelle le chloroplaste. Donc vous connaissez certainement la mitochondrie chez l'homme, qui est notre usine énergétique. Alors elle a aussi des rôles beaucoup plus subtils que ça, hein, très importants dans le métabolisme, dans la longévité, dans la prévention des cancers, etc. Bref, néanmoins, pour simplifier, c'est notre usine énergétique. Et on pense que c'était dans l'évolution une espèce de bactérie qui a été mangée, absorbée par une cellule plus grosse, elle-même une bactérie ou une cellule plus évoluée, et qu'on a gardé finalement cette spécialisation, voilà, ce qu'on appelle l'hypothèse endosymbiotique. Et on a le même phénomène pour les plantes avec le chloroplaste. Et le chloroplaste, c'est l'équivalent à la fois de la mitochondrie de l'homme, donc c'est l'usine de production d'énergie qui va capter la lumière du soleil, notamment au sein d'une partie, voilà, ce qu'on appelle les photosystèmes, qui contiennent de la chlorophylle. D'ailleurs, c'est passionnant, ce fonctionnement des plantes vertes. C'est vraiment passionnant. Et en même temps, ce chloroplaste, il a aussi un deuxième équivalent chez l'animal, c'est-à-dire que non seulement il a l'équivalent de la mitochondrie qui produit de l'énergie, alors là en l'occurrence à partir du soleil, mais aussi il a un rôle qui finalement est pas très loin de l'hémoglobine, ou plus exactement l'hémoglobine de nos muscles, parce qu'on a de l'hémoglobine dans le sang qui permet de transporter l'oxygène, mais on a l'hémoglobine aussi, une forme d'hémoglobine dans le muscle qu'on appelle la myoglobine. Donc c'est vraiment équivalent, si ce n'est que c'est pour l'utilisation intracellulaire, notamment dans le muscle, d'où myoglobine, de l'oxygène pour permettre au muscle justement d'avoir un grand métabolisme via les mitochondries et de pouvoir entraîner la contraction musculaire. Et donc là, c'est un peu deux en un. On a dans ce chloroplaste à la fois l'équivalent mitochondrie et on a à la fois l'équivalent myoglobine. Voilà. Et dans ce chloroplaste, la zone équivalente entre guillemets, de l'hémoglobine, eh bien, contrairement à l'animal où cette hémoglobine fixe l'oxygène parce qu'il y a du fer à l'intérieur, ben là, ce n'est pas du fer, c'est du magnésium. Donc, en fait, les plantes les plus vertes, qui ont donc le plus de chloroplaste et qui ont à l'intérieur le plus de chlorophylle, ont également, notamment au sein de la chlorophylle et des protéines associées, énormément de magnésium. C'est vraiment le minéral qui permet de faire fonctionner cette partie-là. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu qu'on mange de plus en plus de plantes, notamment des plantes vertes, mais que les taux sanguins n'augmentent pas, c'est la preuve qu'en fait, il n'est certainement pas absorbé, ou alors que ce magnésium est utilisé de façon excessive, ça peut être une hypothèse sur laquelle on peut revenir, mais déjà, il y a un problème d'absorption, c'est très clair.
Ce magnésium, une autre complexité, c'est qu'on le retrouve sous beaucoup de formes différentes dans la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça?
Alors, sans rentrer dans la chimie organique et minérale, on peut dire que le magnésium, souvent on dit, voilà, il y a des formes naturelles, des formes non naturelles. Bon, en gros, pour simplifier vraiment, effectivement, il y a des formes dans lesquelles on le trouve de façon naturelle, c'est-à-dire dans les plantes ou dans la mer, hein, globalement. Alors, notamment dans les mers, les océans, on trouve des oxydes de magnésium. Il y a aussi des hydroxydes, qui sont une forme un peu plus particulière, et des carbonates. Et ça, là, on est vraiment ce qu'on appelle, dans la famille du magnésium, ce qui est présent sous forme de sel inorganique, c'est-à-dire de sel minéral au sens strict. Ces sels sont insolubles, ce sont des sels inorganiques insolubles, et d'ailleurs, c'est assez facile par évaporation de les laisser précipiter et d'en faire du coup une poudre qu'on peut mettre par exemple dans des gélules ou de façon un peu plus chimique dans des comprimés. Il y a des sels inorganiques qui sont eux solubles, donc les chlorures et les sulfates. Je détaille pas plus parce qu'on n'a pas forcément énormément de données fiables là-dessus. On a les sels organiques, c'est-à-dire qui contiennent du carbone, c'est des formes un peu plus grosses, un peu plus compliquées, qui sont solubles, alors sous forme de citrate par exemple, et là c'est typiquement le cas d'un certain nombre de comprimés de magnésium qu'on trouve en pharmacie de longue date et qui permettent du coup d'aider à l'absorption, parce qu'effectivement l'absorption intestinale du magnésium, déjà à la base, même sans antinutriments, elle est déjà difficile. Et puis il y a les complexes organiques où là c'est par exemple des acides aminés qui vont être liés, plus ou moins liés d'ailleurs, avec ce magnésium, comme le glycinate ou le bisglycinate par exemple, et sur lesquels d'ailleurs là on a encore moins de données scientifiques. Voilà, ça c'est un peu les formes chimiques. Si on devait en retenir deux, on dirait tout ce qui est oxyde d'hydroxyde qu'on retrouve typiquement dans le magnésium marin et les citrates qu'on retrouve typiquement dans un certain nombre de comprimés. Bien sûr, en fait, si on cherche bien dans le commerce, on peut trouver un peu toutes ces formes, mais ça c'était les deux principales historiquement en tout cas.
Alors, quelles sont les formes les plus utiles et à privilégier?
Si on veut être clair, on n'en sait rien. Il n'y a pas d'études comparatives nettes. Lors d'essais contrôlés randomisés, on n'en sait rien. Donc, je crois que déjà, c'est la première des choses à avoir en tête, c'est que quelqu'un qui va affirmer de façon péremptoire quelque chose, à moins qu'il ait une étude que je n'aurais pas vu passer, dans ce cas, merci de me l'envoyer. Très clairement, on n'en sait rien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on oppose souvent les formes naturelles, hein, les formes donc purement minérales, solubles, et les formes. Et les formes dites de synthèse. Alors en fait, on ne synthétise pas le magnésium, c'est un atome, c'est un élément de la nature, donc on ne le crée pas de toutes pièces, ou alors il faut faire de la physique nucléaire. Mais simplement, voilà, on va le mettre sous une forme qui, elle, n'existe pas dans la nature, ou en tout cas pas de façon courante comme le citrate. Et c'est vrai qu'on a tendance à privilégier les formes naturelles, ce qui en soi est pas inintéressant, parce que c'est sûr que ça paraît plus logique de boire un peu d'eau de mer. Hein. Si vous buvez la tasse, on se doute que c'est potentiellement moins toxique que d'aller manger du citrate dont on n'a aucune idée des potentiels effets secondaires. Bon, après, je ne suis pas sûr que le citrate soit aussi effroyable que ça non plus. Mais voilà, donc on oppose souvent ces deux formes. Laquelle est la plus souhaitable? Objectivement, je ne sais pas. La forme, on va dire, dite magnésium marin, c'est-à-dire sous forme d'oxyde d'hydroxyde, est peut-être plus safe, comme on dit, mais je n'en ai pas de preuve. Et puis, il faut bien savoir que, quelle que soit la forme, globalement, quand même, le magnésium est très mal absorbé. On l'a vu déjà dans l'alimentation. On mange des végétaux qui en contiennent des caisses, et au final, les taux sanguins n'augmentent pas. Bon, bien sûr, il y a l'effet antinutriments des végétaux, hein, que ce soit les fibres, que ce soit les oxalates, hein, et je vous renvoie sur un autre podcast sur l'acide oxalique, sel d'oseille. Hein. Mais indépendamment de ça, l'absorption est déjà difficile et il n'est pas sûr du tout que la voie orale soit finalement la meilleure voie si on veut supplémenter, si on veut augmenter les taux. Et peut-être que simplement des bains qui seraient très riches en magnésium, finalement par voie transcutanée, permettraient de faire passer dans le sang. Hein. On sait qu'il y a un certain nombre de choses qui passent en transcutanée, notamment lors de bains. Et c'est peut-être le cas pour le magnésium. En tout cas, il y a certaines données qui suggèrent que l'absorption transcutanée lors d'un bain est peut-être plus efficace que la supplémentation orale. Voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Encore une fois, les données scientifiques ne sont pas, sans la date évidente.
Ok, très intéressant. Donc, bon, on voit un minéral qui est quand même très présent, qui a l'air assez présent dans les plantes, dans lequel on est tous potentiellement plus ou moins carencés, mais nos ancêtres devaient-ils se supplémenter en magnésium alors?
Ah bah oui, c'est évident, hein, depuis l'Australopithèque, heureusement qu'ils avaient leur gélule de magnésium, bah sinon ils étaient mal barrés. Et il y avait toute une industrie, certainement, à l'époque du magnésium. Bon, pour revenir un peu sérieusement sur le sujet, évidemment, on a du mal à imaginer que nos ancêtres se supplémentaient comme ça. Autant pour le sodium, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les, entre guillemets, pierres à sel que l'on voit naturellement émerger, et d'ailleurs, lors de traditions pastorales, lorsque un berger accompagne, surveille des ovins, des caprins, ces animaux vont, des bovins parfois, ces animaux vont aller spontanément lécher des pierres qui contiennent parmi les minéraux du sodium. Donc ça, le sodium, c'est un cas un petit peu particulier. D'ailleurs, c'est assez intéressant, le sodium, parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Néanmoins, pour le magnésium, on a beaucoup moins de moyens évidents d'imaginer qu'il y avait une espèce de complément ou d'appétence toute particulière pour le magnésium. D'ailleurs, le sodium entraîne d'ailleurs une espèce d'appétence. On peut vite être dépendant au sens un peu, entre guillemets, un peu drogué, un peu shooté au sel, rajouter du sel partout, parce que vraiment, on est fait pour le rechercher. Pour le magnésium, ce n'est pas du tout évident. Donc, il y a une discordance évidente, importante, entre ce qui est admis aujourd'hui comme carence ou insuffisance, selon si on joue sur les mots ou non, de magnésium, donc ce magnésium dont on est censé manquer aujourd'hui, ce qui est possible, et ce qui est même peut-être assez vrai, hein, dans le fond, malgré les taux sanguins, donc normaux, et ce que pouvaient faire nos ancêtres, tout en imaginant que l'évolution et la nature, en plus de 2,5 millions d'années d'évolution du genre humain, bien sûr, n'a pas laissé des carences qui seraient potentiellement délétères à ce point-là. En tout cas, c'est inimaginable en termes de logique évolutionniste, bien sûr. Donc, il y a d'autres pistes. Est-ce que aujourd'hui, on a une alimentation qui a changé et qui fait que parce qu'on mange trop de certains végétaux trop riches en antinutriments, on bloque l'absorption du magnésium et donc on se carence alors même qu'on en consomme des caisses? Ça, c'est une piste. Une autre piste, c'est finalement, qu'est-ce qui a changé par rapport au régime traditionnel d'Homo sapiens? Ben finalement, en dehors des végétaux au sens large, il y a au sein des végétaux la consommation importante de glucides, de sucre rapide, sucre lent, sucre simple, sucre complexe. Et donc, notamment sous forme de céréales, mais aussi de fruits très sucrés, par exemple. Puis, alors, je ne parle pas du sucre ajouté dans les sodas, etc. Et il n'est pas impossible d'imaginer. Attention, c'est une réflexion. Il n'est pas impossible d'imaginer que les glucides, par exemple, dans notre régime hyper riche en glucides depuis les années 70, 60-70, nous carencent. Alors, je ne sais pas comment ça peut se faire de façon directe aujourd'hui, il n'y a pas assez d'études là-dessus. Par contre, on sait très bien en neurologie, par exemple, que lorsqu'un patient alcoolique se présente aux urgences, globalement, il est plutôt carencé en B1. L'alcool carence en B1, donc c'est des gens qui, et la B1, bon, joue beaucoup au niveau du cerveau et entraîne des démences, des troubles de la motricité des yeux, etc. Enfin, c'est des troubles neurologiques assez sévères qui sont en grosse partie réversibles s'ils sont pris très tôt et à qui, malheureusement, sont totalement irréversibles si c'est pris très tard. Et lorsqu'ils se présentent aux urgences pour diverses raisons, souvent on a tendance à leur mettre une perfusion parce qu'ils sont déshydratés et donc ce qu'on peut mettre, parfois, c'est du glucose, surtout s'ils ont une hypoglycémie induite par l'alcool. Et donc, là, en l'occurrence, si on n'a pas supplémenté en vitamine B1 avant de mettre la perfusion en glucose, c'est une erreur médicale, c'est une faute médicale. Et donc, ça, c'est bien à avoir en tête. Effectivement, le sucre qu'on met dans la perfusion va, pour être utilisé, cramer en quelque sorte nos stocks en B1. Alors quand on a beaucoup de B1, ça pose pas tant de problèmes, mais quand on a déjà des taux de B1, de vitamine B1 qui sont vraiment faibles, mais à ce moment-là, alors là, on majore une carence existante de façon très nette, et là, on crée les lésions neurologiques. Donc voilà, il faut bien avoir en tête quand même qu'il y a un certain nombre de composés qui peuvent, et notamment la piste des glucides me paraît très, très raisonnable, notamment parce qu'elle est totalement en opposition avec le régime traditionnel de Sapiens, et je viens de vous citer l'exemple de la B1. Et c'est valable chez les gens qui sont aussi non alcooliques, mais qui seraient carencés en B1 pour différentes raisons, d'origine alimentaire, et chez qui on ajouterait du sucre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment à avoir en tête. Et je pense que c'est une piste potentielle qui expliquerait que déjà, on n'absorbe pas bien, mais en plus, on l'utilise davantage. Après, il pourrait y avoir d'autres dérégulations du métabolisme de ce type-là, toujours d'origine alimentaire, puisqu'on s'éloigne évidemment de plus en plus du régime traditionnel d'Homo sapiens. Voilà. Enfin, c'est des pistes de réflexion que je propose.
Ok, donc au total, qu'est-ce qu'on doit faire?
Premièrement, au total, déjà, je pense qu'il faut admettre qu'on n'en sait rien. Je pense que c'est vraiment important, d'un point de vue d'honnêteté intellectuelle, mais aussi des conséquences des propos qu'on peut avoir. On voit trop de gens qui partent de façon péremptoire en disant telle forme est bonne, telle forme n'est pas bonne, et qui montent un argumentaire qui est intéressant derrière. Mais objectivement, je pense qu'il est important d'admettre que l'on ne sait pas bien. On sait certaines choses, mais quand même très peu. Donc, je crois que c'est la première des choses. La deuxième, c'est déjà de se dire que doser le magnésium un peu en prévention, bah tiens, je suis un peu fatigué, on va doser mon magnésium dans le sang, dans la prise de sang, je suis pas sûr que ce soit très utile. J'en suis de moins en moins convaincu, et autant c'est extrêmement important chez les gens en soins intensifs réanimation, parce que là on sait que les hypo ou hypermagnésémies peuvent entraîner des cardiotoxicités, donc arrêt cardiaque, des choses comme ça. On sait aussi que dans certains cas d'état de mal épileptique, dans le cas de l'éclampsie, etc., on va être parfois amené à utiliser du sulfate de magnésium. Là on est dans des propriétés électriques, encore une fois, hein, d'ailleurs, que ce soit du cerveau ou du cœur. Donc effectivement, là c'est très particulier, bien sûr que là c'est monitoré. Mais je parle des gens qui, comme vous et moi, peuvent marcher, se déplacer sur leurs deux jambes pour aller voir le médecin et qui ne sont pas bien, quelle que soit l'intensité du mal-être, je ne suis pas sûr que le dosage en magnésium va apporter quoi que ce soit, parce que de toute évidence, il va être globalement dans les normes, et pour autant, on admet qu'on est quand même carencé. Donc c'est à cause de cette décorrélation entre les taux sanguins de magnésium et des symptômes qu'il ne me semble pas pertinent en fait d'aller le doser. Donc ça c'était le deuxième message. Et le troisième point, c'est rechercher un régime plutôt low carb, de type un peu cétogène, mais suffisamment protéiné. Voilà.
Donc si je peux récapituler les choses, je dirais que pour pouvoir répondre à ce type de questions, il est important de se rappeler qui l'on est, d'où l'on vient et quel est le problème actuel. Donc on est un Homo sapiens, on vient du paléolithique et le problème actuel, c'est un problème de carence dans lequel il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de flou et puis beaucoup de business, des gros sous, énormément de suppléments qui sont vendus. Voilà, donc on a du mal à imaginer qu'un Homo sapiens, son environnement paléolithique, ait été créé carencé en magnésium. À mon avis, les questions qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui a pu changer dans notre mode de vie et qui crée autant de désordres et potentiellement des carences en magnésium. Je pense que c'est plus intéressant d'aborder le problème sous cet angle-là que d'aller chercher des suppléments et des gélules qui, dans tous les cas, même si potentiellement ils pourraient régler le problème à court terme, ce qui n'est pas prouvé, ne sont en tout cas pas des solutions pérennes. Boris, merci beaucoup pour tes réponses.
Merci Victor.
Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à venir retrouver nos offres sur notre site sequoiasante.com. Vous pourrez aussi vous y abonner à notre newsletter et puis télécharger un e-book que nous vous offrons, que nous avons co-rédigé avec Boris sur le thème de la longévité qui nous est si cher. Prenez soin de vous.
À bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et prenez soin de vous.